VOA Afrique.
Le Monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour à tous et à toutes. Le Monde aujourd'hui, édition du lundi 12 juin 2017. En direct de Washington, Idrissa Sedoudia et Anne Albertson. Nous commençons par les titres.
En République démocratique du Congo, 11 morts et évasion de plus de 900 détenus dans une attaque hier contre une prison de Beni.
Renforcement du partenariat France-Côte d'Ivoire dans la lutte contre le terrorisme après la visite à Paris du président Alassane Ouattara.
À Berlin, le G20 veut soutenir l'économie africaine pour endiguer les migrations. La chancelière allemande Angela Merkel reçoit aujourd'hui de nombreux dirigeants africains à Berlin.
En France, le parti centriste du nouveau président Emmanuel Macron s'apprête à rafler une écrasante majorité à l'Assemblée nationale après le premier tour des législatives hier.
En Syrie, la force kurdo-arabe, appuyée par Washington, a annoncé hier avoir pris son premier quartier dans l'ouest de Raqqa, capitale de facto du groupe État islamique.
Ne manquez pas notre page sport ainsi qu'à la Minute Éco pour l'instant, le journal.
En République démocratique du Congo, nouvelle attaque contre une prison, cette fois-ci dans la ville de Beni. Plus de 900 détenus se sont évadés hier à la faveur de cette attaque à l'arme lourde. 11 personnes auraient perdu la vie, 8 gardiens et 3 détenus. Les autorités locales parlent d'un groupe rebelle Mai Mai. Un couvre-feu a vite été décrété pour tenter de retrouver les évadés. De Goma, capitale de la province du Nord Kivu, Charlie Kasereka fait le point.
C'est vers 15h locale ce dimanche qu'un groupe d'hommes armés a lancé une attaque sur cette maison carcérale de la ville de Beni. Sur les 966 personnes civiles et militaires qui étaient en détention dans cette maison carcérale de Kangwayi, seulement une trentaine est restée et seraient tous des militaires. Le gouverneur de la province du Nord Kivu, Julien Paluku, a vite convoqué une réunion de crise dans la soirée et des mesures sécuritaires viennent d'être prises.
Il y a au total 11 morts, dont 8 gardiens de prison qui ont été abattus par les assaillants qui ont attaqué la prison à l'arme lourde. Mais la grande mesure que nous venons d'adopter, c'est de pouvoir annoncer le couvre-feu à partir de ce dimanche à 18h30 sur toute l'étendue de Beni également, sur la ville de Butembo.
La prison centrale de Beni a déjà subi d'autres attaques similaires dans le passé, comme d'ailleurs plusieurs autres prisons de la RDC dans différentes grandes villes ces derniers temps, dont la plus spectaculaire a été celle du 17 mai dernier à la prison centrale de Makala, où plus de 4000 personnes se sont évadées. Charlie Kasereka depuis Goma pour VOA Afrique.
La France et la Côte d'Ivoire veulent renforcer leur partenariat dans le domaine militaire et celui des renseignements afin de mieux lutter contre le terrorisme. C'est entre autres ce qui est ressorti de la visite du président Alassane Ouattara à l'Élysée. Le point avec Yacouba Ouédraogo.
Le président Alassane Ouattara a promis que la Côte d'Ivoire va jouer sa part dans la lutte contre le terrorisme au niveau de la sous-région ouest africaine. Abidjan participe à la force de l'ONU déployée au Mali et 900 militaires français sont basés en Côte d'Ivoire pour former leurs homologues ivoiriens et surtout en appui de la force française antiterroriste Barkhane au Sahel. Le dirigeant ivoirien a ajouté que son pays va mettre l'accent sur les énergies renouvelables et l'éducation. Il s'est également réjoui du soutien de la France à l'élection de son pays comme membre non permanent du Conseil de sécurité de l'ONU à compter de 2018. Le président Emmanuel Macron a, pour sa part, réitéré l'engagement de la France à aider la Côte d'Ivoire à démarrer très bientôt les travaux du métro d'Abidjan. Avec cette rencontre suivie de la visite ce lundi du président sénégalais Macky Sall, Emmanuel Macron pose les jalons de sa politique africaine. Il va être présent au sommet du G5 en début juillet pour mieux coordonner la lutte contre le terrorisme avec les 5 pays sahéliens concernés.
En Tunisie, quelques dizaines de personnes ont manifesté dimanche à Tunis pour revendiquer le droit de manger et de boire durant la journée, en public, durant le ramadan. Début juin, 4 hommes avaient été arrêtés, puis condamnés à 1 mois de prison pour outrage public à la pudeur, après avoir mangé dans un jardin en plein ramadan. La constitution tunisienne garantit la liberté de croyance et de conscience, mais l'État est aussi décrit comme gardien de la religion. Timothée Donangmaï a joint à Tunis Mouldi Béchir, ancien professeur de journalisme.
Cette manifestation-là s'est arrivée après la tournée d'un responsable d'un parti religieux qui circule d'un café à l'autre et d'un restaurant à l'autre avec un huissier pour notifier le fait de boire, etc., contre la religion, contre le mois de ramadan, etc. Mais ici, en Tunisie, on respecte la liberté individuelle. On n'oblige pas quelqu'un de boire ou de ne pas boire, de jeûner ou ne pas jeûner pendant le mois de Ramadan. Mais il y a quelques partis politiques qui veulent s'exprimer de cette façon pendant ce mois de Ramadan.
Et bien qu'aucune loi tunisienne n'interdise le fait de manger en public durant le Ramadan, 4 personnes ont récemment été condamnées pour l'avoir fait.
Oui, il y a une dizaine de jours, je crois, une semaine. Certains ont respecté ça et ont dit que c'est contre la liberté individuelle. Mais on a dit que puisque c'est un lieu public, c'est un jardin dans la capitale, il vaut mieux boire ou manger dans un lieu pas extériorisé, si vous voulez. En plein public, hein, en plein centre de ville. Mais c'est la première fois, d'après mes souvenirs, que ça arrive pendant ce mois avec ce genre de jugement qui est un peu dur, si vous voulez, envers ces 4 personnes-là dans la capitale tunisienne.
Mouldi Béchir, ancien professeur de journalisme, joint à Tunis.
De nombreux dirigeants africains sont reçus aujourd'hui et demain à Berlin par la chancelière allemande Angela Merkel. Son pays veut saisir l'occasion offerte par sa présidence du G20 pour attirer les investissements vers l'Afrique, étape nécessaire pour réduire les migrations vers l'Europe. L'objectif est de renforcer la coopération pour un développement économique durable des États africains, a expliqué une porte-parole de la chancelière. Des institutions financières internationales censées apporter un soutien technique aux États pour leurs réformes seront représentées à Berlin.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
En France, le parti centriste du nouveau président Emmanuel Macron s'apprête à rafler une écrasante majorité à l'Assemblée. Il vient en effet de pulvériser les partis traditionnels et l'extrême droite au premier tour des législatives de dimanche, qui ont cependant été marquées par une abstention record. Le mouvement présidentiel, La République en marche et ses alliés centristes, forts d'un tiers des voix environ, ravirait au second tour dimanche prochain entre 400 et 445 des 577 sièges de l'Assemblée nationale, selon les projections des instituts de sondage.
En Grande-Bretagne, la Première ministre Theresa May a annoncé la composition d'un nouveau gouvernement qui doit se focaliser sur les questions sociales et produire un Brexit réussi. Boris Johnson est toujours aux affaires étrangères, tout comme son collègue, l'eurosceptique David Davis, ministre chargé du Brexit. Madame May, dont le Parti conservateur vient de perdre sa majorité absolue au Parlement, dément que ses jours à Downing Street soient comptés ou qu'elle soit là pour assurer les affaires courantes.
En Arabie Saoudite, un policier a été tué et 2 blessés dans la nuit de dimanche à lundi par l'explosion d'un engin artisanal à Qatif, région à majorité chiite de l'est du pays, a annoncé le ministère de l'Intérieur. L'engin a été lancé sur une patrouille de la police dans cette région, en proie à des troubles sporadiques, a précisé un porte-parole du ministère.
En Syrie, la force kurdo-arabe soutenue par les États-Unis a annoncé hier avoir pris son premier quartier dans l'ouest de Raqqa, capitale de facto du groupe État islamique. La force tentait dimanche de s'emparer d'une base militaire au nord de la ville. Les forces démocratiques syriennes, qui avaient lancé en novembre une vaste opération en vue de chasser les djihadistes de Raqqa, ont pénétré pour la première fois le 6 juin dans cette cité du nord du pays, conquise par le groupe État islamique en 2014.
En Iran, poursuite de la traque des complices présumés des auteurs des attentats meurtriers qui ont fait 17 morts et des dizaines de blessés le 7 juin à Téhéran. Selon les médias, plusieurs dizaines de djihadistes membres ou liés au groupe État islamique ont été arrêtés ou tués. Le ministre du renseignement, Saïd Mahmoud Alaoui, a annoncé que le cerveau et le commanditaire présumé des attentats, il l'a annoncé sans autre précision, avaient également été tués après avoir fui le pays.
Ici à Washington, les parlementaires américains ont souligné dimanche qu'ils veulent des réponses spécifiques à leurs questions quand le ministre de la Justice, Jeff Sessions, viendra déposer devant la commission sénatoriale du renseignement. Celle-ci enquête sur l'ingérence russe dans la présidentielle de 2016 aux États-Unis. Fin de ce journal sur VOA Afrique. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui.
La Minute Éco, Jacques Aristide.
La Banque des États de l'Afrique centrale, la BEAC, au chevet des banques du Cameroun, Congo, Gabon, Tchad, de la Guinée équatoriale et Centrafrique, tous membres de la CEMAC, Communauté économique et monétaire de la sous-région, leurs banques sont confrontées à un déficit de trésorerie dû notamment retraits et prêts colossaux. La BEAC compte ainsi créer, avant la fin de l'année, un dispositif d'apport de liquidité. En Côte d'Ivoire, tous les droits de douane concernant le commerce extérieur se feront en ligne à partir du 1er août. Pour le ministre du Commerce, Souleymane Zarasouba, la nouvelle plateforme digitale permettant d'effectuer les déclarations douanières et les paiements en ligne va simplifier toutes les procédures liées aux opérations d'import-export, ce qui va, d'après lui, améliorer le climat des affaires, mais aussi sécuriser les recettes douanières. La présidence nigériane doit ratifier cette semaine le budget record de 2017 qui vise à sortir la plus grande économie d'Afrique de sa première récession en 25 ans. Producteur de pétrole, le Nigeria a été touché de plein fouet par la chute des prix du baril et les attaques de rebelles contre ses installations pétrolières dans le delta du Niger.
À présent, les sports avec Élisée Ongpatine. Bonjour.
Bonjour Idrissa et bonjour à tous.
Football et début des éliminatoires de la CAN 2019 en clôture de cette première journée. On a eu droit à un choc. Tunisie, Égypte.
Et ce sont les Aigles de Carthage qui s'imposent par le plus petit des scores, 1-0. But de Yacine Kenissi, les Tunisiens, seul leader de ce groupe après le nul décevant concédé par le Niger. De son côté, le Ghana démarre fort en surclassant l'Éthiopie 5-0 à Kumasi. 3-0, c'est le score qu'a infligé la République centrafricaine au Rwanda pour partager la première place du groupe H avec la Guinée, vainqueur en Côte d'Ivoire 3-2. Et puis, début difficile pour le Cap Vert, battu à domicile par l'Ouganda 1-0. Enfin, bonne prestation du Zimbabwe qui a étrié le Libéria 3-0 grâce à un seul homme, Moussona, auteur d'un triplé.
Dans la poule B, l'Algérie et le Bénin ont réussi leur entrée.
Les Algériens, vainqueurs des EPV du Togo 1-0, partagent la première place du groupe avec le Bénin qui a eu raison de la Gambie sur le même score. Œuvre de Stéphane Sessayon à la 52e minute de jeu. Un capitaine heureux qu'on écoute.
On a peu de temps pour travailler ensemble, je vous le dis, donc on n'a eu qu'une semaine. C'est pas facile, mais sur ce match, moi je suis satisfait parce qu'on a produit du bon jeu, faut le dire. On s'est créé pas mal d'occasions. On a pêché un peu dans la finition, mais je pense qu'il y avait quand même une certaine cohésion et une certaine entente. Je pense qu'on peut mieux faire. Mais bon, il faut se contenter de ce soir de la victoire.
Cette première journée a été marquée aussi par des surprises, notamment les défaites à domicile de trois anciens vainqueurs de cette CAN.
Exactement. Et tout d'abord, la Côte d'Ivoire s'est inclinée à Bouaké face à la Guinée 3-2. La Zambie n'a pas pesé devant le Mozambique vainqueur 1-0. Même score pour la Guinée-Bissau dans le groupe K contre la Namibie. Et puis dans la poule E, l'Afrique du Sud l'a emporté au Nigeria 2-0.
La suite des résultats et cette belle entame du Sénégal.
Les Lions de la Teranga ont corrigé le Nzalan national de la Guinée équatoriale 3-0 et passent en tête de ce groupe A devant Madagascar, vainqueur au Soudan 3-1. Début réussi également pour le Burkina Faso, victorieux de l'Angola 3-1 dans la poule I. La Mauritanie suit en s'imposant au Botswana 1-0. Victoire difficile par contre dans le groupe C pour le Mali 2-1 face au Gabon. Le Burundi est leader du groupe grâce à sa différence de but 3-0 contre le Soudan du Sud. Et puis dans la poule B, c'est le Malawi qui est en tête suite à son succès 1-0 devant les Comores.
Toujours en football, mais chez les jeunes, l'Angleterre a remporté la Coupe du Monde des moins de 20 ans.
Les trois Lions sont rentrés dans l'histoire de cette compétition en remportant leur première Coupe du Monde junior en s'imposant 1-0 devant le Venezuela. L'Italie termine à la troisième place suite à sa victoire au tir au but 4-1 contre l'Uruguay, 0-0 après le temps réglementaire.
Les espoirs anglais ont eux conservé leur titre au Festival de Toulon.
Victoire en finale face à la Côte d'Ivoire. Un partout et puis 5 tirs au but à 3.
Tennis Roland-Garros 2017 a rendu son verdict.
Oui, et chez les hommes, Rafael Nadal a remporté son 10e titre en battant Stan Wawrinka en finale en 3-7, 6-2, 6-3, 6-1. L'Espagnol décroche ainsi un 15e sacre en Grand Chelem, un de plus que Pete Sampras. Et puis au niveau des dames, c'est la toute jeune Yelena Ostapenko, 20 ans, qui a remporté le trophée en s'offrant Halep en 3-7, 4-6, 6-4 et 6-3.
le monde aujourd'hui, VOA Afrique.
De nouveau avec vous, Idrissa Sédoudia. Nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Au Mali, la constitution révisée crée une vive tension entre les partisans du oui et du non. Le texte, qui doit être soumis à référendum le 9 juillet prochain, est diversement apprécié dans le pays. Déjà, les organisations de la société civile, certains partis politiques et des associations de jeunes et de femmes se sont mobilisés pour demander ensemble le retrait du projet. Au même moment, les partis politiques de la majorité se sont lancés dans une campagne d'explication du nouveau texte. De Bamako, notre correspondant Kassim Traoré fait le point.
La constitution malienne révisée par des députés est contestée à travers plusieurs de ses articles. Pour le président de la commission de loi de l'Assemblée nationale, la Cour constitutionnelle a donné son avis favorable pour ce qui est de l'article 118. Zoumananchi Doumia, député.
La notion d'intégrité du territoire appelle à la notion de droit international. Et qu'est-ce qui est dit dans le droit international? Qu'est-ce qu'on pense de l'intégrité du territoire? C'est le droit et le devoir de tout peuple souverain, de tout État souverain, de préserver ses frontières contre une agression extérieure. Est-ce qu'aujourd'hui la République du Mali est menacée de l'extérieur? Est-ce que les frontières du Mali sont menacées? Donc c'est pour vous dire que nous ne violons nullement l'article 118 de la Constitution.
L'opposition trouve qu'en plus de la violation de certains articles, la situation sécuritaire du pays ne permet pas l'organisation des référendums. Honorable Soumaïla Cissé, chef de file de l'opposition malienne.
Dans une zone comme Sénénco, il n'y a pas de préfet. Vous allez en Songo, les sous-préfets sont en Songo. Vous allez à Gao, le gouverneur et tous les sous-préfets sont à Gao, ceux des fidèles sont à Gao. Ça veut dire que l'État n'est pas souverain sur l'ensemble du territoire. Donc l'intégrité du pays est en cause. Et à partir de là, l'article 118 de notre constitution dit qu'on ne peut pas faire d'élection.
Les changements des mandats du président de la République de 5 à 10 ans, la violation de l'article 118 sont des amalgames selon le député Yacouba.
Tout ça c'est faux, il n'y a pas de changement. On est sur la première République, c'est des amalgames qui sont là, qui sont en train d'être dit pour dévier effectivement le point de vue des gens. Je pense que cette constitution a été faite eh bien, en tenant compte des réalités du pays en ce moment, en tenant compte de la grande instabilité de sécurité politique sur toute la ligne.
Le projet de constitution prévoit le Sénat et l'Assemblée nationale. Les deux combinés donnent le Congrès, qui doit s'attirer sur les questions référendaires à la place des Maliens. Modi Ndiaye, président du groupe parlementaire de l'opposition.
Nous de l'opposition parlementaire restons fidèles aux dispositions de la Constitution de 1992 qui exige un référendum pour toute révision constitutionnelle. La sixième raison porte sur le refus de la proposition faite par l'opposition d'introduire la déchéance du président de la République en cas de manquement grave à ses obligations.
Pour le moment, les structures en charge de l'organisation du référendum du 9 juillet sont à pied d'œuvre. Écoutons respectivement Amadou Ba, président de la CENI, et les Général Siaka Sangaré, délégué général aux élections.
Nous devons donc conjuguer nos efforts pour que ça se passe très bien dans la légalité, pour que ce soit un événement où ça va être la transparence, la liberté pour aller voter et pour crédibiliser les résultats qui vont sortir.
Nous sommes en train de faire valider la configuration des bureaux de vote des missions diplomatiques et consulaires et nous pensons que avant la fin de la semaine prochaine, le fichier électoral qui va servir à la tenue du scrutin référendaire du 9 juillet sera définitivement prêt.
En tout cas, les organisations de la société civile, certains partis politiques, des regroupements de jeunes et femmes viennent de mettre en place une plateforme dénommée Non c'est fini ou Enter à Bana, une plateforme qui demande le retrait du projet constitutionnel et l'annulation du référendum. Bamako, Kassim Traoré, VOA Afrique.
Restez branchés 24h/24 sur VOA Afrique à Bamako, au Mali, sur 102.0 FM.
Au Tchad, de mécontentement des d'anciens casques bleus des premiers et deuxièmes contingents tchadiens de la MINUSMA, ils ont lancé une opération dénommée Brûle-Béret ONU la semaine dernière devant leur caserne à N'Djamena pour revendiquer 2 ans de salaire et primes. Les explications de notre correspondant André Kotmadjingar.
sont plus de 2500 à exiger le versement intégral de leur salaire, prime de risque et prime de chaleur de 2014 à 2016 qui s'élève à 1037 dollars par mois. Pour ces anciens casques bleus tchadiens, la douleur la plus insupportable est la présence de cette dotation en matériel de l'ONU à côté d'eux. Et pour exprimer leur mécontentement, ils ont décidé de les brûler systématiquement, y compris les attestations délivrées par cette institution. Cette revendication est-elle une solution à la revendication qui remonte de 2 ans? Altora Maxime, l'un des délégués, répond.
Ce n'est pas la solution, mais c'est une manière de nous faire entendre. C'est aussi une manière de dénoncer le silence de l'ONU, parce que la présence de ces effets nous rappelle les mauvais souvenirs de cette mission. Le premier contingent a travaillé de 2014 à 2015. Le deuxième contingent a travaillé de 2015 à 2016. Actuellement, c'est le troisième contingent qui est sur le terrain. Et nous n'avons pas eu nos droits.
Ces casques bleus attirent l'attention des hautes autorités de payer sans délai leur dû, car, disent-ils, ce n'est pas parce que le gouvernement dispose d'un gros marteau que tout problème doit être considéré comme un clou. Mais pourquoi attendre si longtemps avant de sortir de leur silence? Sont-ils inspirés de l'exemple de leurs frères d'armes de la Côte d'Ivoire? Altora Maxime réagit.
Non, le militaire tchadien est discipliné. Contrairement aux autres qui revendiquent leurs droits avec Kalachnikov et roquettes en main, raison pour laquelle nous avons opté pour cette opération Brûle-Berée Unie pour informer l'opinion nationale et internationale du désarroi dans lequel nous nous trouvons. C'est incompréhensible que les casques bleus d'autres contingents soient bien traités et que le casque bleu tchadien qui a vraiment hissé le drapeau du pays et qui a imprimé une bonne marque du pays à l'extérieur soit traité de cette manière. On ne sait pas si c'est l'aménagement qui va nous payer ou bien l'argent est déjà placé et que ce sont nos autorités qui refusent de nous payer. Nous nous sommes regroupés devant la direction générale de l'intendance militaire pour revendiquer nos droits. Il y a de cela 3 ou 4 mois déjà et certains de nos camarades étaient arrêtés. C'est donc nous demandons également leur libération.
Un avertissement qui semble avoir eu écho, même si le gouvernement en place n'est pas jusqu'à là entré en négociation avec les manifestants. 4 de leurs compagnons arrêtés et détenus suite à la dernière manifestation devant la direction générale des instances militaires sont libérés mais condamnés à 3 mois avec sursis. Nous avons tenté d'avoir la réaction du gouvernement face à cette revendication, mais sans succès. André Kodumadingar Djamena pour VOA Afrique.
VOA Afrique, Djamena, c'est 93.1 FM au Tchad.
En République démocratique du Congo, plusieurs familles du village de Kalou-Kouloukou ont été forcées de déguerpir par l'entreprise minière Chemical of Africa, appuyée par la police et l'armée, nous dit notre correspondant à Lubumbashi. Elle dénonce également, ajoute Narval Mabila, leurs conditions d'hébergement dans un centre de promotion sociale destiné aux réfugiés dans la commune de Kamalondo.
22 familles croupissent dans la misère au centre de promotion sociale dans la commune de Kamalondo après avoir été délocalisées par force au village Kalou-Kouloukou par l'entreprise Chemaf. Tous veulent s'exprimer pour dénoncer leurs conditions de vie.
Manumba pour les 26, 18h30, maintenant t'as déjà compris Manumba. 2h, Angers, Chemaf.
Et c'est bateau basan à bon état. Bakoza n'a manqué au bisou de Zaouyo. Ça veut dire ça la boye. Angers n'avait donné une place là-bas. Mais Chemaf, ils sont venus, ils sont promenés, tout est. Donc ici, là, il y a des gens qui souffraient, Binan et tout ce qu'on avait comme des habits, de mousse, il n'y a rien vraiment. Les conditions qui sont ici, c'est mauvais les conditions. Parce que si tu étais même avec le caméra, tu voulais filmer, voir, il y a des gens qui souffrent, il n'y a pas à manger, même les toilettes, il n'y a pas, on est en train de souffrir, on dort, c'est même pas les courants, il y a des gens dont il y a enfamé, des gens qui sont malades, l'autre, des gens qui sont à l'hôpital, et même il y a des bébés ici.
Ils vivent dans des conditions inhumaines, constat fait par les voisins qui environnent le centre d'hébergement, Odette Moussa et à notre micro.
Ils vivent vraiment. Ils viennent des Chemaf du côté de la Roissy. Ce sont des Congolais comme nous. S'il y a moyen, s'il y a quelqu'un qui peut les aider, ils viennent les aider. Ils vivent très mal ici. Il y a des enfants qui sont malades ici. Ils ne sont pas dans une bonne condition.
Face à l'indifférence des autorités politico-administratives, l'ONG Justicia SBL, qui s'occupe des droits de l'homme, lance un plaidoyer pour le sans-logis. Maître Timothée Mbouya nous retrace les contours.
Ce que nous avons vu ici est vraiment déplorable. Les gens sont hébergés dans des conditions inimaginables. Il y a à craindre des maladies. Et en fait, la promiscuité qui est ici est intolérable. Nous avons vu des hommes, nous avons vu des femmes, nous avons vu surtout des enfants qui commencent déjà à présenter un état pas très souhaitable parce que certains apparemment ont déjà des signes de malnutrition et toutes les autorités doivent s'impliquer pour aider à trouver une solution. Le plus tôt possible serait le mieux. Nous avons vu, nous n'allons pas nous taire. Ce que les gens nous disent, c'est qu'ils habitaient un village. Ce village, semble-t-il, a été annexé à une concession minière de l'entreprise Chemaf et que l'entreprise, avec le concours des autorités congolaises, a procédé à la destruction ou à la démolition des maisons. Ils ont été amenés ici par la mairie. Malheureusement, depuis qu'ils sont là, ils n'ont aucune assistance.
Le maire de la ville, Oscar Sanguza Mutunda, a préféré garder silence. Lubumbashi, Narval Mabila, VO Afrique.
Lubumbashi en RDC sur le 102.8 FM, c'est bien évidemment VO Afrique, 24h sur 24.
Au Burkina Faso, plus d'un an après l'attaque terroriste meurtrière qui l'avait frappé le 15 janvier 2016, le café-restaurant Cappuccino de Ouagadougou renaît de ses cendres, pour reprendre l'expression de notre correspondant sur place. Plusieurs membres du gouvernement burkinabé sont allés soutenir le promoteur qui avait perdu sa famille dans cet attentat djihadiste en plein cœur de la capitale. Reportage d'Issa Napon, notre correspondant à Ouagadougou.
Sur l'avenue commune Koumoun, balayée par une fine pluie cette nuit, c'est la résurrection du café restaurant Cappuccino qui se jouait un an après l'attaque terroriste qui y avait fait une trentaine de morts. Une réouverture qui traduit la volonté du promoteur, qui y avait aussi perdu sa famille tombée sous les balles meurtrières des terroristes, de garder la tête haute. Gaëtan Santomena.
Ce qui est important pour moi, c'est de respecter la mémoire de ceux qui sont partis. C'est de ne pas accepter d'être inacceptable. C'est d'essayer de laisser un monde meilleur à nos enfants. Ce qui s'est passé au Burkina, c'est passé à Paris, c'est passé à Londres, c'est passé à Bruxelles. Sécurité à 100%. On fait de notre mieux. On essaie de s'entourer de toutes les précautions possibles et inimaginables. Et j'espère que ça ne sera reproduit plus jamais nulle part.
Voir ce lieu qui symbolise la douleur de Ouagalais, touché de près ou de loin par le drame, renaître de ses cendres traduit le courage d'un homme, lâche le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement burkinabé, Rémi Dandjenou.
Il y a dans cette réouverture une volonté nette d'un homme de considérer que ce qui s'est passé est certes important pour quelques jours, mais que vivre et avancer est essentiel. Et le gouvernement, dans son entièreté, voudrait accompagner ce gouvernement et dire qu'il y a eu certainement des événements très douloureux qui sont produits ici, mais que la réouverture du Cappuccino est l'expression d'une volonté d'un homme de redonner la vie et surtout la volonté d'un pays qui a envie de continuer à avancer. Donc, dans ces événements douloureux, il a su tourner la page, il a su se rendre.
Des clients attablés pour la circonstance n'ont pas voulu manquer cette première. Une présence qui vise à transmettre un message soutient les différents invités.
Ce qui m'a le plus motivé, c'est le fait de savoir qu'après ce drame-là, le propriétaire des lieux a tenu à rouvrir. Ça m'a tellement marqué parce que je me demande d'où il puise ce courage-là. Et je suis émue de voir que ça va, il a le moral haut. Il a rénové les lieux, le personnel est toujours dynamique comme avant. C'est un homme très courageux et je suis fière de ça, vraiment fière. On l'encourage et moi je suis prête à l'encourager. J'invite tous les citoyens burkinabés aussi à le faire. On va vivre en mettant Dieu au cœur de tout et pour se dire que tout ira bien.
On a le droit de montrer que la vie ne s'arrête pas là. Il faut qu'on puisse aller de l'avant. Avec tout ce qu'il a vécu, tout ce qu'il a enduré, qu'il accepte de réinvestir, de montrer qu'il faut qu'il arrive à réaliser ses rêves toujours. C'était un devoir vraiment pour nous de venir vraiment le soutenir, de montrer qu'on est avec lui.
Je suis très content d'être ici et de voir M. Gaetano qui a le courage, la force et l'enthousiasme pour repartir après les drames qu'il a subi.
Tout est symbole donc que la réouverture du café restaurant Cap Cappuccino, comme pour dire à tous ceux qui s'aiment terreur de désolation, non, vous ne changerez pas nos habitudes, non, vous ne nous empêcherez pas de vivre. Issa Napon, Ouagadougou, VOA Afrique.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
Salut les amis, ici Roger Moutou sur VOA Afrique. Restez branchés ce soir dans RM Show à 20h, dans Universel. Au menu, le Top 10 American Music, les nouveautés de la musique américaine. Vos commentaires sur votre page Facebook, Roger Moutou, la voix de l'Amérique. Et vos SMS au 225-58-9240. Je répète, 225-58-9240. Ne ratez pas votre émission interactive RM Show chaque soir à 20h temps universel sur VOA Afrique. Peace Africa!
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique en direct de Washington. Voilà, c'est tout pour cette édition matinale. Merci de l'avoir suivi. Merci à Anne Albertson pour le suivi de l'actualité et la mise en onde. Un grand merci à toute la rédaction et Idrissa Seydoukia à Washington. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.